Bonjour Alain Baraton, rebonjour.
Rebonjour Eric Delvaux, bonjour Patricia Martin.
Bonjour Alain Baraton.
Vous nous avez promis de parler ce matin du pied de gingembre sans savoir forcément qu'il s'agit d'un rhizome.
Eh bien, et comme vous le dites bien très justement, quand on parle déjà de gingembre, on parle bien des rhizomes, ce qui fait l'intérêt de la plante. Alors déjà, l'occasion de rappeler, parce qu'on a toujours tendance à confondre, les rhizomes ressemblent à des racines, mais sont des tiges souterraines qui se développent horizontalement. Donc quand il y a des racines souterraines d'où s'échappent des tiges, ce sont généralement des rhizomes et non pas des racines. Mais à quoi donc ressemble le gingembre? Eh bien le gingembre est une fort jolie plante qui produit des tiges qui peuvent atteindre 1,50 m de hauteur, donc c'est une très grande plante, et ces tiges portent à leur extrémité des fleurs jaunes tirant sur le brun. Celles-ci embaument si délicieusement que les Chinois, qui sont les plus grands spécialistes et parmi les principaux producteurs dans la culture du gingembre, eh bien les Chinois, disais-je, attendent la fin de la floraison pour extraire les plants et récolter les rhizomes.
Et le gingembre qui est très apprécié pour ses propriétés culinaires.
Il parfume subtilement les biscuits et les gâteaux, le pain d'épices ou les sushis cuisinés par les Japonais. Du temps de la Grande Russie, on se délectait aussi du coq mariné au gingembre, un plat dont raffolait, pardonnez-moi, particulièrement le tout premier tsar, Ivan le Terrible. Et aujourd'hui, encore un peu partout dans le monde, y compris en Charente-Maritime, j'ai vérifié, eh bien on continue d'élaborer avec le rhizome des liqueurs et des sirops.
Et depuis quand est-ce qu'on peut consommer le gingembre en France?
Alors, il est possible d'en consommer véritablement depuis le 9e siècle, et il est alors moins cher que le poivre. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, le gingembre est pratiquement à la portée de tous. Et avec le temps, il va être très recherché.
Il va l'être maintenant.
Oui, bien sûr, parce que entre-temps, voyez-vous, Patricia, on lui a découvert des vertus médicinales. Mmh. Le gingembre serait efficace dès le 9e siècle pour guérir des problèmes gastriques, et il se dit même à l'époque qu'il stimulerait l'appétit.
Je vais pas vous le faire en décoction, alors.
Vous n'avez pas besoin de ça, c'est ce que vous voulez dire.
Mais je crois que l'appétit est la garantie d'une bonne santé.
Ça fait plaisir aux banquiers aussi, c'est que vous êtes en bonne santé, absolument. Le gingembre, une plante réputée aussi, une plante dite aphrodisiaque. Est-ce que c'est vrai, ça?
Il est vrai que chaque fois que l'on parle du gingembre, on voit toujours quelques petits sourires. La plante serait-elle aphrodisiaque? Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste en la question. Moi, non, mais j'ai quelques amis qui se reconnaîtront, qui en consomment beaucoup. Ce que je sais, c'est qu'en Asie, il est appelé shangqiang, ce qui signifie, comme vous le savez bien sûr, virilité. Mais j'ai trouvé un petit document assez intéressant qui a été publié en Italie. Nous sommes au 12e siècle. Vous voyez que ça remonte à loin, à très très loin. Et voilà comment, à l'époque, on parle très joliment du gingembre. Au froid de l'estomac, des reins et du poumon, le gingembre brûlant s'oppose avec raison, éteint la soif, ranime, excite le cerveau. En la vieillesse, éveille amour, jeune et nouveau. Je répète, en la vieillesse, éveille amour, jeune et nouveau.
Mais ça, c'est un Italien qui parle.
Et c'était tout du 17e siècle.
Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, oui, effectivement, apparemment, le gingembre aurait quand même quelques petites vertus aphrodisiaques.
Alain Baraton, vos réponses et vos conseils aux auditrices, auditeurs de France Inter. Une question dont je ne sais pas si elle est très... si elle concerne les jardins. Nadine, elle aimerait offrir à sa mère un arbre, mais pas pour le planter, cet arbre, dans le jardin de sa mère, mais pour offrir à une association. Alors, elle vous demande, connaissez-vous des associations sérieuses qui acceptent les arbres?
Eh bien, voyez-vous, Eric, cela se fait de plus en plus. Il y a quantité d'auditeurs, de personnes, de citoyens qui aimeraient effectivement offrir, dédier un arbre à un papa, à un fils, à planter un végétal pour une naissance, pour se souvenir d'une personne partie trop tôt. Et quantité d'associations aujourd'hui, effectivement, propose, eh bien, de planter un arbre, vous le payez, et vous en êtes en quelque sorte le parrain. Vous avez les associations, quelques mairies qui le font, quelques domaines historiques. Je ne parle pas de Versailles, mais il est possible, à Versailles, aujourd'hui encore, d'adopter un arbre. Donc oui, c'est possible. Les sites internet débordent de ce genre de propositions. Soyons prudents, certains sont plus ou moins véreux. Allez donc dans les monuments historiques, allez dans les collectivités, et vous aurez vraiment de quoi...
La liste des associations idoines.
Voilà, tout à fait.
Et Yolande vous demande si les clématites doivent être palissées au moment de la plantation.
Oui, la petite clématite, elle ne peut pas se fixer toute seule. Elle n'a pas de crampons qui lui permettent d'adhérer efficacement le long d'un mur. Donc oui, il va falloir un treillage, lui permettre effectivement de s'enrouler et de pouvoir grimper. Petite précision également sur la clématite, on le sait trop peu. Cette plante, elle grimpe pour rechercher le soleil. Elle grimpe, elle a besoin du soleil, mais elle déteste le soleil sur sa base. Rappelez-vous à chaque fois, tête au soleil, pied à l'ombre. Le pied de la clématite doit toujours être mis à l'ombre.
Caroline vous fait savoir qu'elle a fait germer un noyau de litchi il y a un an. À ce jour, le litchi possède une vingtaine de feuilles, mais il ne dépasse pas les 20 cm. Que faire pour qu'elle continue à grandir?
Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de laisser un peu ce petit litchi se reposer? Il y a un an, il germe, il fait quelques feuilles, et on s'étonne qu'il ait décidé de faire une petite pause. Il se repose, c'est la dormance, il redémarrera bientôt son démarrage. On n'y touche pas, on le regarde et on l'aime.
On aime le litchi. Patricia vous demande, que me recommanderiez-vous, Patricia Martin-Tel,
c'est
vous
qui avez écrit,
pour mon crassula.
Si c'était moi, il ne me répondrait pas.
Mais bien sûr que si. D'ailleurs, vous allez découvrir dans votre bureau en revenant un magnifique bouquet de mimosa. Nous sommes en pleine période de floraison du mimosa. J'en ai prévu pour l'ensemble de la station.
Quel pipoteur.
La station, non mais c'est pas possible.
Vous êtes venu les mains dans les poches à la marathon pipo. Patricia vous demande, que faire pour son crassula? Vous m'expliquerez ce que c'est qu'un crassula.
C'est une très belle plante, c'est une plante dite succulente, elle a de grosses feuilles bien épaisses, c'est une plante qui ressemble même à un petit arbre, pas grand chose là encore, il faut éviter l'excès d'eau, elle préfère la sécheresse, pas de soleil trop direct, et la laisser pousser paisiblement.
Parce que le crassula a déjà 10 ans d'âge, précise Patricia, donc ne pas trop l'arroser.
Non, ça déteste l'excès d'eau.
Un dernier conseil pour le week-end.
Un livre qui peut déboucher en promenade. Le domaine du Rayeul, Oser les Méditerranées. C'est publié en coédition entre Actes Sud et le domaine du Rayeul. Jean-Philippe Grillet, Gilles Clément à qui l'on doit justement la restauration de ce jardin. Ça a été créé. Ce livre est sorti à l'occasion du trentenaire de l'acquisition du domaine du Rayeul par le conservateur du littoral. Un très bel ouvrage publié aux éditions Actes Sud, quantité de photos. On apprend tout sur le Rayeul. C'est vraiment un beau livre. L'occasion de parler également d'un très bel endroit, le domaine du Rayeul.
Le Rayeul dans le sud de la France.
Oui, dans le sud de la France. C'est merveilleux.
C'était la main verte d'Alain Baraton. Merci beaucoup Alain et à la semaine prochaine.
À samedi.